Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un tableau de Van Gogh aspergé de soupe à la tomate dans le cadre de la très prestigieuse National Gallery de Londres. À Berlin, des activistes collés à un poteau soutenant le squelette d'un dinosaure dans le non moins prestigieux musée d'histoire naturelle de la capitale allemande. Eh bien, les actions coup de poing des militants écologistes sont, ces dernières semaines, multipliées. Et que dire de ce qui se passe dans le centre-ouest de la France, à Sainte-Soline, où des manifestations émaillées de violence continuent de provoquer la colère du gouvernement. Ce mercredi, la première ministre Elisabeth Borne a dénoncé des scènes, je cite, « inacceptables ». Un peu plus tôt, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait parlé d'éco-terrorisme. Alors sommes-nous à un tournant dans la lutte en faveur de l'environnement? Face à une situation toujours plus urgente, la radicalité est-elle devenue le seul moyen de se faire entendre? Mais quelles pourraient être les conséquences? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Loïc. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous appelle par votre prénom parce que vous ne souhaitez pas communiquer votre nom. Vous êtes un citoyen qui soutient Dernière Rénovation, qui est une campagne française de résistance civile. Nos deux autres invités sont en ligne. Stéphane Labranche, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue du climat, coordinateur scientifique du GIECO-IPBC. C'est un groupe d'experts sur l'évolution des comportements. Et notre troisième invité est Sylvie Olitreau, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de recherche au CNRS à l'Université de Nanterre, spécialiste du militantisme écologiste. Et je vais citer l'ouvrage dont vous êtes la co-auteure, paru en 2012 et qui nous intéresse. Son titre, La désobéissance civile. Voilà, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je vais commencer avec vous, Sylvie Olitreau, parce que voilà, je peux ajouter d'autres événements à la série en cours que j'évoquais, des manifestants en Allemagne qui, pendant 42 heures, sont restés collés au sol lors d'un événement consacré au constructeur automobile Porsche. Sylvie Olitreau, que signifient ces actions? En quoi elles sont novatrices par rapport à tout ce qui a pu être mené précédemment dans l'histoire des luttes en faveur de l'écologie?
En même temps, elles sont novatrices et pas si novatrices, c'est-à-dire qu'en réalité, elles se multiplient avec un effet médiatique plus que certain. En revanche, la question de la désobéissance civile a traversé depuis le début, en fait, le mouvement écologiste et en particulier tous les mouvements, alors notamment anglo-américains et dans lesquels se sont organisées les toutes premières mobilisations. Donc, à la fois, c'est plutôt une réinvention, on peut dire des nouvelles cibles, mais moins une inventivité totale. En revanche, oui, une démultiplication. Je dirais qu'il y a un rythme assez soutenu en ce moment.
Oui, un rythme soutenu, une démultiplication, une réinvention, mais rien de totalement révolutionnaire, vous nous dites. Stéphane Labranche, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de cette situation?
Oui, mais je rajouterai une petite anecdote par-dessus. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des militants allemands qui s'enchaînaient à des rails de train dans les années 80. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce que je rajouterais à ça, c'est que là, on parle du climat spécifiquement. Et souvent, ces nouvelles actions sont à mettre en fait dans un processus plus large où pendant un certain temps les jeunes se sentaient déconnectés des grandes ONG environnementales classiques qui font des manifs et font des pamphlets, des choses comme ça. Et là, les nouveaux jeunes que je côtoie et avec qui j'ai eu des discussions, certaines enquêtes que j'ai faites aussi récemment montrent que tout ça ne suffit pas. Donc ce n'est pas simplement à l'égard de l'inaction climatique. C'est aussi parce que les anciennes façons de faire ne sont plus suffisantes, un peu trop pépères. C'est une citation de la part d'un de mes étudiants. Et donc là, on se retrouve peut-être pas avec quelque chose de nouveau, mais en tout cas avec une résurgence et une multiplication des méthodes. Et là, je suis d'accord, on a affaire à de l'inventivité, à la créativité. Mais parfois, le lien entre ce que je fais et l'objectif n'apparaît peut-être pas de manière claire. Donc, s'enchaîner pour empêcher des camions de pétrole de passer pour lutter contre le changement climatique est un message clair. En revanche, de mettre de la moutarde, du ketchup sur un Van Gogh ou un Monet, là, le lien entre les deux, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le voient.
Oui. D'ailleurs, le président d'Europe Écologie Les Verts avait dit que le climat mérite mieux qu'une caricature pour réagir à cette soupe à la tomate envoyée sur le tableau de Van Gogh, sur une vitre. Il faut préciser qu'il y avait une vitre qui protégeait le tableau. Loïc, vous réagissez de la même manière. Je rappelle que vous êtes un citoyen qui soutient Dernière Rénovation.
Oui, merci pour votre invitation aujourd'hui. Il se passe énormément de choses ces dernières semaines sur ces sujets climatiques, mais pas que. Je tiens à le rappeler, c'est avant tout des sujets sociaux. La crise climatique va avoir des conséquences sociales énormes. C'est déjà le cas en France, puisque nous, le mouvement de résistance civile Dernière Rénovation a un objectif clair qui vise à obtenir une première victoire concrète sur le plan climatique et social. Et il s'agit d'obtenir du gouvernement un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments. Et ça concerne 12 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique. Et pourquoi est-ce que les deux sujets sont liés, excusez-moi? C'est parce que ce secteur représente 20% des émissions du pays, 45% de la consommation d'énergie du pays. Donc en pleine crise d'énergie, en pleine crise inflationniste où les Français sont avec un couteau sous la gorge et des factures assassines pour se chauffer cet hiver et devoir choisir entre manger ou payer son loyer ou se chauffer, c'est un sujet qui touche vraiment à tous ces points-là. Il ne faut pas rester dans la case climat, là on est sur un sujet de société qui touche tous les Français.
Alors vous avez mené récemment une des actions que j'évoquais, alors je ne l'ai pas cité, mais je vais la citer. C'était lors du Classico, le match au sommet de la Ligue 1 en France, le PSG contre l'OM, c'était le 16 octobre dernier au Parc des Princes. Vous avez tenté de vous attacher à un poteau. Quel rapport avec la lutte pour le climat ?
Ah mais là, a priori, aucun. Mais on est entièrement aligné avec le grand public là-dessus. Effectivement, ce lien est de plus en plus flou. Mais c'est parce que les actions et la position du gouvernement, elle n'est pas de plus en plus floue, mais s'éloigne aussi de plus en plus du sujet du climat et social. Ces actions aujourd'hui, comme le disaient vos invités, on en vient à des choses qui n'ont plus aucun rapport parce que c'est ce qui marche.
Mais ça risque pas de brouiller le message? En quoi ça marche?
Alors déjà, je pense qu'il faut, on n'aura pas le temps de l'évoquer entièrement ici aujourd'hui, mais ce n'est pas le but. C'est-à-dire que les luttes historiques qui ont fonctionné, on parle de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, les luttes indépendantistes en Inde et les suffragettes par exemple, n'étaient complètement incompris par les gens de leur époque. C'est-à-dire qu'ils étaient là, d'ailleurs pour la plupart détestés. Donc ces actions choquent avant tout pour interpeller le grand public et s'emparer de moments médiatiques pour parler des sujets qui comptent. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous ne nous auriez pas invités sur ce plateau si on n'avait pas fait ces choses-là. Donc on est contraint d'en venir là et il faut reconnaître la part de responsabilité des médias là-dedans, dans le choix des modes d'action.
Stéphane Labranche, est-ce que vous êtes d'accord? Finalement, il faut faire du bruit, même si le message peut être un petit peu flou derrière.
Alors moi, ce qui m'a interpellé dans ces actions, c'est que je pense que c'est le huitième entretien que je fais en deux semaines sur ces questions. Quand le rapport du GIEC sort, on en parle pendant trois jours, et là, pendant deux semaines, ça ne dérougit pas. Ça, c'est un premier élément. Donc, je pense qu'en termes de capacité à percuter dans le public, on a là des formes d'action qui sont probablement plus efficaces qu'un discours scientifique qui sort pour la 25e fois. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que quand on intègre ou on communique à partir de données scientifiques, on parle de scientifique, on utilise des termes scientifiques et donc on reste dans un registre scientifique. Et pour moi, un des avantages ou des effets positifs de ce qui se passe en termes de mode d'action là depuis deux semaines, c'est qu'on sort d'un registre scientifique pour rentrer dans un registre social et politique. Et là, je rejoins complètement votre invité Loïc.
Mais ça risque pas de décrédibiliser le message ?
Ça va décrédibiliser le message auprès de certaines personnes, ça va faire réfléchir d'autres personnes et ça va peut-être amener certaines personnes à aller un peu plus loin. Donc il va y avoir une diversité de réactions, comme il y en a toujours par ailleurs dans les autres mouvements, comme on a vu justement avec les suffragettes ou avec le droit des Noirs aux États-Unis ou des choses comme ça.
Loïc, je reviens vers vous. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, c'est l'actualité du moment en France, cette mobilisation contre le projet de méga-bassine, c'est dans les Deux-Sèvres, on va dire centre-ouest de la France. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'un mouvement plus vaste, comme on avait pu le voir avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple la zone à défendre, c'était pour protester contre un projet d'aéroport. Vous voyez ça comme ça ?
Ah, écoutez, oui, on soutient ces mouvements, absolument, c'est vraiment un même sujet. On parle de problèmes d'eau qu'on pourrait avoir dès 2030-2040 en France, donc c'est très très vite, d'ici 10 ans, on pourrait avoir vraiment des perturbations majeures. Je pourrais expliciter plus tard si c'est flou. Et ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens français, et moi très personnellement, si je m'engage à ce point-là, c'est-à-dire que j'ai un procès en avril quand même, juste pour que vous voyez un petit peu les conséquences juridiques aussi.
Pourquoi, pardon ?
Pardon ?
Pour quelle raison vous avez un procès en
avril ? Pour l'intrusion sur le stade du Parc des Princes, du Parc des Princes, il y a quelques jours. Mais à nouveau, c'est parce que je suis très inquiet pour mes proches. Et moi, en fait, je suis convaincu maintenant que d'ici à nouveau 10 ans, donc très très vite, demain, on va avoir du mal à trouver suffisamment à boire, suffisamment à manger pour nous ici en France. C'est-à-dire que ce n'est plus un problème isolé au sud, hein. Comme on disait à l'époque, maintenant c'est un effet domino. Donc quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, et en l'occurrence avec le scénario actuel, la trajectoire vers les plus 3 degrés d'ici à 2050, on parle de 3,5 milliards de personnes, 3,5 milliards de personnes qui vont devoir quitter les pays où ils ont vécu pendant des décennies, des générations. Et ça, j'utilisais l'image de domino, c'est pas innocent, c'est parce qu'un domino ça tombe et ça bouscule le suivant. Et donc quand une personne se déplace, ça va déplacer des millions de personnes. On parle à nouveau de milliards de personnes et ça va venir forcément nous toucher ici puisque ces gens vont devoir trouver à manger, à boire, de quoi se loger. Et c'est normal, on ferait la même chose à leur place, mais il va falloir partager.
Vous avez évoqué quelque chose qui est au cœur complètement d'autres sujets puisque vous allez avoir affaire, vous nous l'avez dit, à la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que militant écologiste, si on veut faire avancer la cause, on a d'autres choix que de se frotter au risque justement d'avoir affaire à la justice pour faire entendre sa voix ?
Mais là, le choix, il est très clair. Hein. C'est soit on agit tout de suite, soit on jette notre avenir à la poubelle. Hein. Donc moi, faire une garde à vue de 40 heures, avoir un procès, potentiellement une peine de prison, ce n'est rien par rapport au fait de m'inquiéter, au fait que ma petite sœur, ma mère vont potentiellement vraiment subir de plein fouet des conséquences, comme on les voit dans des pays qui ont subi des effondrements. Le Liban, récemment, la situation est catastrophique. On a eu le Congo au début des années 2000, où vraiment il y a eu des millions de morts parce qu'ils se battaient pour l'accès aux ressources basiques. Hein. Donc ça arrive en France très bientôt. Donc moi, j'en suis convaincu maintenant, je pense que c'est indéniable, les rapports du GIEC sont formels sur le sujet. Donc une fois qu'on sait ça, tous en français, en tant que citoyen, je suis désolé, mais là, oui, il faut mettre les proportions en face. On a un danger de mort, on a un danger grave d'effondrement, donc une garde à vue, un procès au tribunal, c'est rien en comparaison de tout ça, c'est même presque un caprice de se poser la question avant de se lancer.
Et est-ce que, Sylvie Olitro, est-ce que ça c'est un tournant dans la lutte, dans le militantisme, puisque vous êtes spécialiste du militantisme écologiste? Ou est-ce que ça a toujours existé, le fait que les militants se frottent à la justice ?
Clairement, vous l'avez entendu, il y a quand même des nouvelles modalités. C'est-à-dire une éco-anxiété très forte dans cette génération. Et ce que vient de dire Loïc aussi, il me semble, alors simplement pas nouveau, mais formulé d'une manière quand même inédite, c'est-à-dire la conscience qu'il y a un questionnement autant en termes de justice environnementale que justice sociale. Et c'est ça les deux points qui semblent pour moi saillants dans les justifications, on va dire, de leur action. Alors ensuite, il y a évidemment des procès. Hein. Les faucheurs volontaires aussi avaient des procès. L'idée de l'engagement militant était déjà, je dirais, sur les mêmes grammaires de militantisme. Mais on a des justifications inédites et des justifications liées à l'urgence, enfin des urgences qui sont climatiques, mais avec des effets sociaux et des effets économiques déjà tangibles.
C'est la grande différence, c'est qu'aujourd'hui la cause elle est multiple, parce qu'on sait qu'effectivement l'écologie ça touche à la crise énergétique, à la hausse du coût de la vie. La cause elle est beaucoup plus multiple qu'il y a quelques décennies. C'est en ça que, la lutte est différente.
Ce qui est différent, c'est que, je dirais, ça désectorialise d'une certaine manière l'écologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la question OGM, par exemple, ou une autre question de secteur. Là, clairement, c'est même un modèle de société qui est interrogé.
Stéphane Labranche, votre œil du sociologue, vous dites pareil, c'est un modèle de société nouveau qui est questionné ?
Dans un premier temps, absolument. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que si on regarde les messages, et la plupart des messages écologistes ou des campagnes de sensibilisation qui nous disent qu'il faut absolument éviter le plus 3 degrés en 2050 parce que sinon, ça va être le cauchemar. Louis qui a fait référence, donc c'est parfaitement vrai. Ce qui nous manque à côté, c'est des modèles de société. Il va faire bon vivre en 2050 et où on aura réussi la neutralité carbone à minima et à sauver la biodiversité. Et ce qui m'inquiète moi un peu là-dedans, ça commence à émerger heureusement, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que psychologiquement, on sait ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire des catastrophes qui sont plutôt bien décrites, mais on ne sait pas vers quoi aller. Donc comment on fait pour construire quelque chose de nouveau? Et ça, c'est pas évident. Et donc cette construction, cette imagination, cette conception d'un nouveau modèle de société, pour moi, elle est aussi urgente que des actions radicales. Parce que sinon, on ne saura pas quoi faire. Et sans cette alternative potentiellement positives, etc. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça, c'est pas grave. Si on n'a pas ça, l'éco-anxiété ne va pas diminuer. Et ensuite, on va manquer de direction, on va manquer de motivation et d'énergie pour savoir où aller. C'est comme si vous faisiez une course et on vous dit, ben, vous allez pas là, mais on vous dit pas où aller. Mais la ligne d'arrivée, ben, elle est quelque part. C'est juste pas possible, en fait. Et donc, pour moi, y a une vraie crise là-dessus, puis il faut la construire.
Mais est-ce que ça risque pas de renforcer le bras de fer, justement, entre... Je disais que le gouvernement, par exemple, actuellement, ne décolère pas face aux manifestations qui ont pu avoir lieu, qui ont donné lieu à des violences contre le projet de méga-bassine dans le centre-ouest de la France. Est-ce que ce bras de fer ne va pas se durcir entre, justement, ces manifestants et les autorités?
C'est un épisode, excusez-moi, c'est fatigant. C'est un épisode.
Je pose la question.
Oui, mais enfin... C'est un seul épisode où on a vraiment cette violence, où tout de suite le gouvernement se déchaîne pour tenter de se justifier, de ne pas mettre en œuvre justement ces plans qui existent. Merci à votre invité, je suis désolé d'interrompre, mais pour cette transition sur le concret justement, parce que je trouve qu'il y a un côté très pervers ces dernières semaines justement à se fasciner sur les formes d'action et à pas assez se concentrer sur le fond. Là, on vient d'établir le constat, enfin il est établi depuis longtemps, mais on vient de se dire ça, donc merci à nouveau pour la transition. On doit parler pendant ces émissions. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les prochaines étapes? On est tous d'accord sur la catastrophe qui arrive, on est tous d'accord sur les problèmes qui existent dans nos sociétés. Maintenant, concrètement, quelles sont les étapes pour actionner cette transition? Et là, à nouveau, je ne veux pas prendre trop la parole, mais je suis prêt à vous parler de ce qui s'est passé cette semaine avec ces amendements qui ont été votés en début de semaine, lundi soir, par la représentation nationale qui prévoyait de débloquer 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Sujet crucial à nouveau, 20% des émissions, 45% de la consommation énergétique. C'est par là qu'il faut commencer, c'est un passage obligé pour éviter ces scénarios catastrophes. Donc c'est une réponse très très concrète à votre invité qui se demande mais quelles sont les étapes pour faire cette transformation de société. Le problème, c'est que je viens de l'apprendre juste avant de monter sur votre plateau, c'est pour ça que je suis un petit peu énervé, excusez-moi, c'est que le 49.3 vient d'être appliqué par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Donc on a des personnes qui ont été nommées par un président, qui n'ont pas été élues, qui sont en train de nier complètement la parole de la représentation nationale et de la parole des Français, justement, et qui sont en train d'écarter. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va être retenu, mais on s'attend au pire sur ce côté-là. Et qui nie justement cette chance unique, c'est historique, hein, ces amendements qui viennent de passer, qui nient ça et qui sont en train de jeter à la trappe cette porte ouverte. Je me tourne vers vos invités qui sont au téléphone, cette porte ouverte pour lancer cette transition. Donc là, je pense que le problème, il vient d'un gouvernement qui n'est pas prêt à la faire. Et aussi, dernière chose, toutes ces actions qu'on commente énormément dans les médias récemment, ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences d'une inaction. Donc il faut pointer vos sujets là-dessus aussi en premier lieu, parce qu'elles n'existeraient pas si le gouvernement avait entendu les cris d'alarme depuis plus de 50 ans.
Et pour se faire entendre aujourd'hui, il n'y a plus que ces moyens d'action selon vous, ces actions coup de poing qu'on évoque?
Vous croyez plus moyens d'action,
à d'autres moyens?
Il n'y a plus que ces moyens d'action, et d'ailleurs on a des co-auteurs du GIEC qui se sont assis sur la route en Allemagne, qui font les mêmes types d'actions que ce qu'on a fait. Il y a des auteurs aussi, et des climatologues et des scientifiques, vous avez vu le mouvement Scientist Rebellion, qui en viennent là maintenant. Vous imaginez, c'est-à-dire que les scientifiques en viennent à se dire, à désespérer, au point de ne pas être écoutés. Là, on est dans le scénario du film Don't Look Up, où vraiment, on a beau agiter les bras dans tous les sens, personne n'écoute.
Alors qu'on a une COP27 qui se profile à la fin de la semaine prochaine.
Bien sûr, mais là, je pense que maintenant que j'ai vu cette décision du gouvernement d'Elisabeth Borne, ça va être le sommet de l'hypocrisie totale. Ils vont faire des promesses grandiloquentes. Et en fait, ils viennent de prouver aux Français, alors à nouveau, ça reste à voir les détails de ce qui va rester dans ces amendements, mais on est pessimiste. Ils viennent d'annoncer aux Français que ça ne les intéressait pas, que la transition climatique n'était pas un sujet pour eux.
Faut-il être de plus en plus radical pour se faire entendre concernant la cause environnementale? C'est notre débat ce soir. Loïc, je rappelle que vous ne souhaitez pas communiquer votre nom. Notre invité citoyen soutenant Dernière Rénovation, campagne de résistance civile. En ligne avec nous, Stéphane Labranche, sociologue du climat. Sylvie Olitreau, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du militantisme écologiste. Alors, vous avez évoqué, et vous dites, Loïc, qu'on met trop le doigt, les médias, j'imagine, sur les violences qui ont pu émailler des manifestations le week-end dernier dans le centre-ouest de la France contre un projet de méga-bassine d'eau. Mais Sylvie Olitreau, il faut que je vous pose la question, puisqu'elle est au cœur de notre débat. Est-ce qu'il y a de plus en plus de violences dans la lutte en faveur de l'environnement?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a observé depuis environ une dizaine d'années, alors à la fois des violences, peut-être, enfin dans les, je dirais, les altercations avec les forces de l'ordre, mais aussi une plus forte, je dirais, surveillance et parfois criminalité ou criminalisation d'un certain nombre d'actes qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas versés du côté de la criminalisation. Il faut aussi interroger un autre point qui est rarement interrogé, donc c'est l'occasion de le faire ce soir, c'est la tolérance, on peut dire, à, voilà, à la, aux espaces de contestation, c'est-à-dire aux espaces qui peuvent produire des mobilisations, des interpellations et qui sont aussi vecteurs de démocratie, puisque la démocratie se fait évidemment dans la concertation, mais clairement aussi dans le fait de manifester. Donc il y a aussi cet aspect-là. Enfin, clairement, le mouvement écologiste, depuis notamment la mort de Rémi Fraisse en 2014, a été particulièrement traumatisé par un certain nombre, je dirais, de violences aussi à l'encontre de leur propre action. Ce qui fait qu'on ne peut pas nier, il y a une socialisation à la violence, qui fait aussi qu'un certain nombre de militants écologistes qui autrefois allaient en famille manifester, renoncent au moins d'y aller en famille. Enfin, je veux dire, il y a aussi des grammaires qui font que du coup, ça se durcit des deux côtés. Si vous voulez, on attend que de toute façon, il y aura des confrontations.
Mais quand Loïc, par exemple, dit que c'est aujourd'hui le seul moyen de se faire entendre, qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Ce qui est sûr, c'est que... Alors, je n'ai pas à répondre. À
bien sûr, bien sûr. Mais quelle analyse on peut faire ?
L'analyse, c'est clairement que je pense qu'il y a eu des moments de concertation. Il a très clairement expliqué aussi que, voilà, il y a des espaces démocratiques qui sont les parlements. Lorsqu'il y a aussi la volonté de passer en force parfois ou de renoncer à un certain nombre d'engagements, y compris internationaux, voire nationaux, bien évidemment, notamment les militants, s'interrogent. Et peuvent, pour certains d'entre eux, alors en rajoutant l'éco-anxiété, en rajoutant le sentiment de crise, qui est plus global dans notre société, hein, on revient aussi, alors il faut aller au-delà des écologistes, on revient d'une crise sociale avec les Gilets jaunes, qui a aussi marqué, je dirais, les dernières années.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une augmentation de la répression ? Peut-être, je pose la question, en décalage avec les actes qui sont... montrer du doigt quand, par exemple, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'écoterrorisme. Est-ce que c'est la hauteur des accusations ?
Disons que là, en plus, on a vraiment la réponse du ministère de l'Intérieur, qui est finalement dans son rôle, au sens assez classique, d'être dans le cadrage de l'ordre public. En revanche, ce qui pourrait être attendu aussi, c'est les autres ministres, parce qu'il y en a d'autres qui sont chargés soit de la transition écologique, soit de la santé, soit encore des questions d'environnement ou de parce que l'eau, c'est quand même c'est quand même symboliquement, c'est très fort. Donc il faut aussi peut-être attendre, hein. Ils ne l'ont peut-être pas encore énoncé, mais il faut attendre d'autres réponses qu'effectivement que la réponse du ministère de l'Intérieur, qui lui est dans son rôle classique de dénonciation des violences, et ça s'est toujours vu, c'est-à-dire que bien souvent, pour délégitimer un mouvement social, on stigmatise les plus violents et on menace, ou du moins on anticipe sur des peurs collectives. De violences futures.
Loïc, je vous vois faire pas mal de signes avec votre tête. Qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, je bouillonne. Oui. Je bouillonne. Non, vraiment, je comprends pas on est vraiment que sur les conséquences du vrai sujet qui sont les violences d'État. Et là, les violences d'État, on n'en parle pas assez. On est capable de citer un militant qui est décédé à une année donnée. Et attention, hein, je minore pas cet événement qui est gravissime. Mais tous les ans, c'est 2200 personnes qui meurent du fait des conditions de vie dans des passoires thermiques. Le responsable, c'est l'État. Donc aujourd'hui, quand l'État pointe du doigt en traitant d'éco-terroristes, un mouvement où il y a de la violence, et je ne cautionne pas la violence en aucun cas, mais il n'y a pas de mort, etc. quand même, et eux sont responsables de 2200 morts tous les ans depuis des années. Donc remettons les choses dans le bon ordre, moi ça me révolte, à nouveau je suis citoyen français, c'est un Français sur cinq qui vit dans ces passoires thermiques, on a tous des connaissances parmi nous, peut-être certains d'entre nous et certains de nos auditeurs vivent dans des passoires thermiques et sont en danger pour leur santé, surtout en pleine crise sanitaire. Donc il faut vraiment remettre les choses dans le bon ordre, c'est l'État qui a porté le premier coup aujourd'hui. Et une fois qu'on a ça en face, quand l'État dénonce les violences lors de ces manifestations, depuis des années, les collectifs scientifiques engagés et la société civile dénoncent les violences étatiques. On vient de citer des nombres de milliers de morts qui auraient pu être évités depuis des années si un plan de rénovation thermique des bâtiments avait été enclenché.
On vous a entendu sur le sujet, mais est-ce que ça ne vous inquiète pas, cette montée de tension entre justement les actions des manifestants, la répression de l'État et le risque aussi d'une décrédibilisation, d'un clivage beaucoup plus fort avec des gens qui vont délaisser complètement l'action écologique par rapport à justement en estimant que ces actions coup de poing qu'on a évoquées finalement sont vaines?
Mais attendez, mais comment on peut comparer? Mais l'inquiétude, mais moi je suis inquiet depuis des années parce que on vous a parlé de ces milliards de personnes qui vont être déplacées. D'ici à 10 ans, c'est 1 milliard de personnes. La vague de migration à travers la Méditerranée, il y a quelques années, on en a parlé partout. C'était 200 000 personnes qui se sont déplacées. Vous avez vu le cataclysme que c'était dans les médias, la gestion du gouvernement, c'était horrible. Une personne sur 10 mourait sur la route pour rejoindre l'Europe à cette époque-là. On parle d'un milliard de personnes sur les routes d'ici à 10 ans. Ça fait 100 millions de morts si on applique ce ratio d'ici à 10 ans. Donc comment vous voulez, pourquoi est-ce qu'on passe du temps à parler de ces choses-là, à s'inquiéter sur des formes d'action, à s'inquiéter sur des épisodes de violence mineure par rapport aux violences d'État, quand on a un épisode de l'histoire qui va être le pire épisode de souffrance de toute l'humanité qui arrive dans à peine une décennie? Il faut remettre les points sur les i, il faut absolument recentrer le débat sur ce problème absolument majeur. Et en comparaison, je suis désolé, mais ce que vous mentionnez, c'est risible. Donc à nouveau, c'est ça qui nous arrive dans la figure et c'est ça que l'État est en train de nous laisser. C'est ça envers quoi l'État est en train de nous guider.
C'était Stéphane Labranche, vous qui êtes sociologue du climat. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet, justement. Moi, je pose la question d'un risque éventuel de clivage entre l'éco-anxiété, et on a entendu les interrogations et les inquiétudes fortes de Loïc, et peut-être une partie de la population qui peut être complètement en décalage avec ça. Est-ce que ce clivage peut s'aggraver?
Oui, il va probablement s'aggraver avec une partie de la population, mais les dernières phrases de Loïc sont importantes. Ce que je trouve, on passe un peu à côté de deux sujets là. Le premier sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de telles actions qui sont menées maintenant? Et ça, donc, c'est la crise climatique et de la biodiversité. Et il faut donc faire attention, et là je parle autant aux militants qu'aux médias, pour faire bien comprendre pourquoi il y a ces actions et non pas simplement parler des actions sans lui parler du pourquoi avant. C'est contre-productif et ça passe à côté de la plaque. Deuxième point, en revanche, où là, je suis impliqué dans des politiques publiques et des stratégies nationales sur les questions de climat depuis 2005. Et en fait, on a un problème avec la rénovation énergétique du bâtiment, c'est de penser que le pognon suffit. Il y a plus de pognon maintenant dans les comptes qu'il y a de projets de rénovation énergétique parce que les copropriétés sont capables de se mettre d'accord. Ça, c'est juste un constat. Qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? Est-ce qu'on passe en mode politique obligatoire pour tous les bâtiments, pour obliger les gens à le faire? Mais si on le fait, bien entendu, il faut les accompagner financièrement. Ça, c'est pas le problème. C'est pas parce qu'on oblige quelque chose qu'on est obligé et qu'on ne fait pas d'accompagnement financier. Mais ce qui est très clair sur les analyses, sur cette question de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est que le pognon ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un accompagnement de la décision collective avec des gens qui vivent peut-être dans un bâtiment ou pas, des propriétaires qui vivent ailleurs et qui ont des locataires qui n'ont pas d'intérêt à le faire. Il y a peut-être des jeunes couples avec un enfant qui vivent dans 30 mètres carrés et qui ont le pognon pour s'acheter quelque chose d'autre.
Excusez-moi, désolé, mais là, c'est comme Loïc, si on était en train de réinventer le constat climatique. Pareil, les plans d'action existent déjà et ils ne sont juste pas appliqués par le gouvernement. On a la semaine dernière la Cour des comptes, qui est la plus ancienne institution française, qui a publié un rapport sur les politiques de l'État ces dernières années sur la rénovation thermique des bâtiments. Et là, les termes sont hallucinants.
Je ne voudrais pas qu'on fasse un débat, parce que là, en plus, c'est quasiment terminé. C'est sûr, mais sur la rénovation thermique. Ma dernière question, Stéphane Labranche, nous reste quelques secondes. Est-ce que finalement ce débat est à l'image d'une société dans laquelle on passe de plus en plus en force au détriment de la négociation? En 20 secondes, s'il vous plaît.
Vous parlez de l'État ou des gens là?
Stéphane Labranche.
Oui, en fait, oui, il va y avoir une augmentation des oppositions. On le sent venir depuis plusieurs années. Donc moi, tout ça ne me surprend pas du tout, en fait. Ouais. En fait, je m'y attendais dès 2015 et j'ai été un peu en avance.
D'accord. Sur cette opposition, en tout cas ce mouvement en faveur du climat qui se muscle de plus en plus. Merci beaucoup Stéphane Labranche, sociologue du climat, coordinateur scientifique du GIECO, IPBC, groupe d'experts sur l'évolution des comportements. Merci Loïc, citoyen soutenant la campagne de résistance civile Dernière Rénovation. Et merci à notre troisième invité, Sylvie Olitreau, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du militantisme écologiste. Ce débat du jour est à présent terminé. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, RFI Soir.